Montpellier, sur Internet, à la radio, sur votre téléphone et en DAB+, il est 15h sur Radio Aviva. Radio Aviva, le Flash Info.
Bonjour, Jean-Luc Mélenchon n'a pas tardé à réagir après la convocation de Mathilde Panot par la police judiciaire. La présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale sera entendue le 2 mai prochain dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme après des propos pour dénoncer la contre-offensive d'Israël à Gaza. Le fondateur de la France Insoumise a dénoncé un événement sans précédent ayant pour but de protéger un génocide, dit-il dans un post publié sur X. Un adolescent de 14 ans placé en garde à vue à Toulouse après des violences envers son professeur. Cet élève de 3e aurait giflé hier à 4 reprises l'enseignant avant de le menacer de mort. Le professeur et le principal du collège ont déposé plainte pour violence. À Béziers, le maire Robert Ménard a pris un arrêté hier permettant d'instaurer un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans. Objectif, lutter contre les violences entre jeunes. Une mesure similaire est déjà entrée en vigueur hier soir en Guadeloupe à Pointe-à-Pitre pour les moins de 18 ans, entre 20h et 5h du matin. Simplifier les démarches administratives pour les Français en déplacement. Ce matin, dans une maison France Service à Sceaux dans les Hauts-de-Seine, Gabriel Attal a annoncé plusieurs mesures en ce sens, notamment la généralisation de l'intelligence artificielle dans les services publics. Une IA appelée Albert qui servira à rendre les démarches plus simples, par exemple pour les demandes d'allocation ou les déclarations d'impôts. Elle servira surtout aux agents des services publics puisqu'ils pourront utiliser cet outil pour générer des réponses plus précises aux questions posées par les usagers. 5 mois après la fermeture de ses magasins, Habitat va se relancer en e-commerce. L'enseigne d'ameublement souhaite rebondir après son placement en liquidation judiciaire en décembre dernier. La marque va désormais vendre ses produits en ligne. Et puis en mode foot, Olivier Giroud devrait rejoindre les États-Unis la saison prochaine. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France devrait quitter l'AC Milan pour rejoindre le Los Angeles FC, club où joue actuellement l'ex-gardien des Bleus, Hugo Lloris. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne journée. À notre écoute.
La météo dans les Hauts.
Bonjour à toutes et à tous. Cet après-midi, de la pluie domine le ciel de l'Hérault. On observe entre 13 degrés à Bédarieux et 16 degrés à Lunel. Demain mercredi, le soleil réapparaîtra sur la totalité du département. On attend 8 degrés le matin et 18 degrés l'après-midi à Montpellier. Je vous souhaite de passer un très bel après-midi à l'écoute des programmes de Radio Aviva.
Radio Aviva à Montpellier, Carnon et Saint-Gély-du-Fesc, 88 FM en DAB+ et partout dans le monde, radio-aviva.com. Aviva. Radio Aviva, le mag de la rédac. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva.
Bonjour à tous et bienvenue pour votre magazine sur Radio Aviva. Je suis aujourd'hui en compagnie de Sofiane Boudia. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes un jeune Montpelliérain de 25 ans, archéologue et surtout un grand voyageur. Donc au mois de juillet de l'année 2023, vous êtes lancé entre guillemets le défi de faire Montpellier-Istanbul à vélo. Un risque et un défi que peu de personnes seraient prêts à relever. Concrètement, d'où est venue cette folle idée ?
Alors cette idée d'entreprendre ce voyage, elle repose sur plusieurs aspects. Déjà une volonté de découvrir l'Europe à travers un vélo, parce que le vélo reste un moyen de transport quotidien, mais alors sur un voyage, on se demandait ce que ça pouvait donner, quelle aventure, quel type de rencontre et qu'est-ce que cela engendrait. Et j'avais déjà aussi fait un premier petit voyage seul en vélo en France, et donc je voulais aller plus loin, découvrir plus de choses.
Justement, comment est-ce que vous êtes préparé à ce long et périlleux voyage ?
Alors, il y a eu plusieurs préparations. Tout d'abord, une préparation matérielle, logistique, puisque c'est 2 mois de voyage. Donc, il faut anticiper différents événements. Il faut anticiper aussi le coût du voyage, l'organisation, libérer 2 mois à temps plein. Donc, il y a eu vraiment un gros travail sur cet aspect-là, sur cette préparation logistique du voyage. Ensuite, il y a eu toute la préparation matérielle. Trouver le vélo adéquat. Est-ce qu'il fallait acheter un vélo neuf, un vélo de voyage, équiper un VTT? Il y avait tout un tas de questions aussi sur ça. Puis la tente, le matériel. Et enfin, une préparation peut-être plus physique et mentale. Donc là, c'est vraiment se dire, est-ce que je suis prêt? Qu'est-ce qu'il faut que je me mette en tête pour réussir à atteindre Istanbul en vélo? Et physiquement, j'avoue qu'on ne s'était pas vraiment préparé. Il y a eu deux sorties de vélo avant le début du voyage, mais c'était un petit peu l'aventure quand même.
Donc, vous avez débuté ce voyage avec un de vos amis. Vous avez débuté le 10 juillet 2023. Donc, vous êtes parti du quartier des Arceaux de Montpellier. Justement, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait dans vos têtes? Quels étaient vos sentiments après les premiers coups de pédale?
Alors, une excitation juste folle. Les premiers coups de pédale, la traversée de Montpellier le matin, un lundi à 7h le 10 juillet, se dire, bon, bah, la prochaine fois que je pose mon vélo et que j'arrête de voyager en vélo, bah, je serai en Turquie et on sera déjà en septembre. Donc, beaucoup d'excitation, beaucoup de peur aussi, puisqu'on ne sait pas, donc on se lance. 2 mois, c'est long. 3000 kilomètres, tu reviendras dessus, c'est aussi très très lent et donc c'est assez effrayant, mais très très excitant.
Donc avec quand même plus de 400 kilomètres parcourus et 6 jours intenses à vélo, vous arrivez au col de l'Arche, à la frontière italienne, et donc synonyme d'une étape importante de ce voyage. Quels justement étaient vos ressentis au moment de passer la première frontière de votre voyage?
Alors il y a eu double ressenti, et c'est vrai que c'est intéressant, puisqu'il y a le ressenti sportif, puisqu'on a traversé les Alpes, donc ça a été la première grosse étape. Et le passage de frontière, c'est intriguant, puisqu'en fait, on n'a pas l'habitude de passer une frontière en vélo. Donc, les panneaux changent, les routes changent, on arrive dans une ville italienne. Et la sensation du premier restaurant en Italie et du premier petit café le lendemain matin avec Cuneo, c'est juste assez fou de se dire, waouh, en regardant le vélo, on se disait vraiment, on arrivait ici avec nos petites bécanes. Donc, c'est que le début, c'est qu'une frontière parmi une certaine quantité de frontières. Voilà, un petit peu.
Est-ce qu'on peut dire justement que le passage de cette première frontière, ça vous a remis un coup de boost, un coup de motivation, ou vous étiez quand même assez fatigué au bout de 6 jours de vélo?
Non, ça a été un vrai coup de boost, ça motive. Alors oui, en plus, on venait de traverser les Alpes, donc vraiment, il y avait ce sentiment où on a passé le mur qui sépare la France de l'Italie, et ce mur-là, dans nos têtes, il n'y avait pas plus compliqué dans la suite du voyage, puis la première frontière qui enchaîne directement. Donc ouais, c'était un coup de boost. Et on se sentait un petit peu indestructible. On sentait qu'on pouvait vraiment traverser toute l'Europe grâce à cette première frontière qui a vraiment eu un rôle important, je pense, dans nos têtes.
Donc vous avez débuté le 10 juillet, vous avez passé votre première frontière au col de l'Arche le 16 juillet. Comment s'est déroulée la suite du voyage? Racontez-nous.
Alors la suite du voyage, c'est un très très long périple. Du coup, on a passé cette frontière, on a traversé ensuite l'Italie, est-ouest, donc par la plaine du Pô, donc une zone assez plate, assez compliquée. On s'est lancé des petits défis dans ce grand défi. Typiquement, on savait que c'était une zone un petit peu chiante. Du coup, on a fait 300 km en 3 jours. Du coup, on a eu vraiment des petits défis internes jusqu'à sortir de l'Italie. Et là, on a commencé à rentrer dans les pays de l'ex-Yougoslavie, donc Slovénie, Croatie, Bosnie. Et on les a enchaînés avec chacun ses particularités. On a tourné les kilomètres, on a traversé la Croatie avec de très belles découvertes. On a eu aussi tout plein d'anecdotes sympas. Quant à la Bosnie, ça a été, je pense, la frontière la plus percutante qu'on ait pu passer, puisque on change de rythme, on sort déjà des pays un petit peu européens dont on a l'habitude, puisque de toute façon c'est un pays qui a une histoire qui est marquée, et on reviendra aussi dessus, mais c'est surtout un pays qui est musulman, alors que les autres pays étaient plutôt chrétiens. Donc on arrive dans un autre environnement, dans une autre ambiance, et c'est vrai que c'est assez intéressant. Ensuite on a continué après la Bosnie, on est descendu en Slovénie, au Monténégro, pardon, et ensuite en Albanie. Donc ça aussi, c'est des pays qu'on connaît finalement très très peu, donc les découvrir sur un vélo, c'est aussi assez fou. L'Albanie, ça a été aussi une magnifique découverte, on s'en fait une image, et c'est vrai que par ce voyage en vélo, on a découvert notre Albanie de l'image qu'on s'en faisait. On a continué en Macédoine, puis ensuite en Grèce. Donc c'est des pays qui sont tous très différents les uns des autres, et ensuite on a rejoint la Turquie tranquillement. Mais ouais, c'est un pays, finalement chaque pays a une histoire qui lui est propre, et on a traversé ces différentes histoires le long de notre chemin en vélo qui est un fil conducteur entre ces différents pays.
Nous marquons une courte pause musicale juste après la suite de cette folle aventure en compagnie de Sofiane Boudia sur Radio Aviva. Aviva, solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande.
soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Merci à toutes et à tous d'être restés en notre compagnie sur Radio Aviva. Revenons donc à cette folle aventure hors du commun, plus de 3000 km à vélo en passant à travers 10 pays. C'est le défi que s'est lancé Sofiane. Nous avons donc évoqué en première partie de cette émission tout ce qui tournait autour de la préparation de votre voyage, le passage de la première frontière en Italie, mais également la suite et l'arrivée à Istanbul. Est-ce que, d'une part, vous avez rencontré quand même des difficultés durant votre voyage ?
Alors, des grosses difficultés, pas vraiment. On a eu vraiment beaucoup de chance sur ce point-là, puisqu'on s'était aussi énormément préparé. On était relativement prudent sur l'aspect physique. On a appris à écouter notre corps, nos ressentis, nos douleurs. On a aussi bien préparé nos vélos avec des révisions régulières. On surveillait vraiment le moindre petit bruit et la météo, l'environnement, puisque de toute façon, ça a été un été qui a été assez compliqué avec des incendies pas possibles en Grèce, des incendies en Croatie, des inondations en Slovénie. Et donc tout ça, on a eu vraiment beaucoup de chance. Je pense que les difficultés étaient plus sur le mental, puisque c'est un long voyage. C'est un voyage aussi où on est pas mal seul finalement, même si on voyage à deux. Sur le vélo, on discute très très peu. Donc on se retrouve souvent face à soi, à se poser des questions, à chercher un petit peu du sens dans ce qu'on fait. Et les difficultés, elles sont aussi sur les conditions, puisqu'on part avec 4 t-shirts pour 2 mois de voyage. On n'a pas une douche tous les jours. On dort dans une tente, sachant qu'il y a eu de la canicule cet été, un petit peu dans tous les pays d'Europe du Sud. Il y a eu aussi beaucoup de moustiques. Donc on a plus été confronté à ce genre de difficultés-là sur la durée, puisqu'au bout de 2 mois, on a envie d'une vraie nuit, on a envie d'un vrai lit, on a envie d'une vraie douche tous les soirs et de changer un peu de vêtements. Donc les difficultés étaient plus sur ce niveau-là que sur l'aspect sportif ou sur l'aspect mécanique.
Il y a un aspect que j'aimerais également évoquer, c'est sur le plan culturel. Donc vous avez traversé quand même une dizaine de pays, vous avez rencontré différentes cultures, différentes architectures. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ?
Alors ça a été, je pense, un des points assez importants. J'ai l'habitude de voyager, je suis archéologue aussi dans la vie, et donc voir un petit peu sur cette même ligne, sur ce même voyage, que chaque pays est très très différent, que finalement, en fait, il n'y a pas un voyage, mais il y a une dizaine de voyages dans un seul voyage. Les gens, l'atmosphère, l'ambiance, l'architecture changent énormément d'un pays à l'autre. Quand on est en Italie, on a une architecture qui est propre à l'Italie. Quand on descend en Bosnie ou même en Slovénie ou en Croatie, on est dans l'ex-Yougoslavie, donc il y a l'histoire, la grande histoire qui se mêle à la petite histoire, celle qu'on voit tous les jours, celle qui nous est racontée par les locaux, celle qu'on observe de nos yeux quand on traverse la Bosnie et qu'on voit des zones entières avec des bâtiments détruits. Quand on descend plus au sud de l'Albanie, on aperçoit beaucoup de bunkers. Donc quand on mêle tout ce qu'on voit, tous les échanges qu'on a, tout ce qu'on mange, avec toutes les personnes avec lesquelles on discute, toutes ces petites choses à la grande histoire de chacun de ces pays ou en tout cas de chacune de ces régions, en fait on apprend quand même beaucoup de choses sur tout ça.
J'imagine que vous avez quand même pu observer beaucoup de monuments, beaucoup de quand même assez intéressants qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir en France. Mais vous avez également rencontré des gens.
Ouais.
Et le côté humain, je pense, a été très important durant ce voyage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus ?
Beaucoup, beaucoup de personnes. Effectivement, on a rencontré, je pense, toutes les générations, tous les types de personnes possibles. On a beaucoup échangé. Les gens nous racontaient leur histoire. Et on était de passage. Alors, c'est vrai que mon pote avec qui j'ai voyagé m'a dit tout à l'heure qu'on est étrangers. C'est nous les étrangers quand on voyage comme ça. Et chaque personne qu'on rencontre nous amène quelque chose, nous apprend des choses sur sa vie, sur l'espace, sur l'environnement autour de lui. Et on est juste spectateur de tout ça avant de continuer, de passer à la personne d'après. Et tout ça crée aussi ce voyage et toutes ces rencontres.
Justement, par rapport aux rencontres que vous avez pu faire, vous avez gardé contact avec certaines de ces personnes-là ?
On a gardé quelques numéros et on a envoyé quelques photos et quelques cartes postales en arrivant à Istanbul, en Turquie. Donc, ouais. Et il y a plein de personnes, il y a plein de noms. Et même des voyageurs français qu'on a rencontrés, avec lesquels on a fait un petit bout de route aussi. Donc, que de belles rencontres. Et aussi, j'ajoute, partout où on a pu être, toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer, les gens nous ont toujours aidés. Donc ça, c'est aussi une des règles qu'on a appris dans ce voyage, c'est que quand on est en difficulté, on peut compter, je pense, sur les gens qui nous entourent, il n'y a pas de souci.
Donc j'imagine quand même qu'avec une aventure folle comme celle-ci, vous avez quand même des anecdotes assez intéressantes à nous raconter.
Ouais, il y en a quelques-unes. La première anecdote, je pense, moi, qui nous avait beaucoup marqué, c'était en Bosnie, donc c'est un des seuls jours de pluie qu'on a eu durant le voyage, et on avait posé notre tente dans un abri de jardin. On était parti le matin très tôt, à 6h30, et on a commencé à rouler, parce qu'on voulait avancer, qu'on n'était pas très loin de la frontière monténégrine, et finalement, en avançant, on a pris une énorme pluie, et on cherchait à s'abriter, sauf qu'aucune maison dans les parages, et la seule maison qui traînait, on s'est fait inviter par un Serbe et un Croate en Bosnie qui étaient en caleçon, torse nu, en train de boire de la raki à 7h du matin. Et du coup, on s'est retrouvés en fait à picoler avec eux à 7h30 sous la pluie. Donc, on a repris la route. On avait un peu moins froid. mais c'était une drôle d'aventure et une autre aventure rigolote aussi, c'était en Bosnie où on s'est attablé dans un petit restaurant et on a rencontré deux policiers un petit peu fous qui voulaient pas payer l'addition, je crois. Et donc, ils sont un peu pris la tête et un de deux a sorti une arme pour rigoler. Et du coup, tout le monde rigolait, le restaurateur compris. Et nous, on a regardé ça avec un air très, très intrigué parce que c'est pas une scène très, très courante. Donc voilà, et puis notre aventure pour finir où on a posé nos tentes un petit peu innocemment au bord d'un lac et à la tombée de la nuit on a croisé des Belges, ils nous ont expliqué que c'était une zone où les ours et les loups venaient boire, donc on s'est retrouvés à trembler sous la tente à minuit, en se demandant s'il y avait des ours. On a bien nettoyé autour de nous pour enlever le reste de nourriture, mais ça aussi c'est une drôle d'aventure, une drôle de nuit.
Merci beaucoup en tout cas Sofiane Boudia, merci pour ce témoignage de votre aventure folle. Je rappelle quand même que vous avez fait plus de 3000 km en vélo pour rallier Istanbul de Montpellier. Merci beaucoup.
Merci.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine en notre compagnie et à bientôt sur Radio Aviva. Aviva.
C'était le Mac de la rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.
Tu sais, ce soir j'ai vu tous les joyaux de la pop. J'ai même bu à outrance toute l'absinthe de tes potes. J'ai côtoyé de rares nymphes, pris des rails en avance dans des salles bien trop noires, sans lueur d'élégance. Davantage j'ai serré mes mâchoires lamentables et zélé des amants, des garçons de passage que j'ai tenté d'approcher, mais que ma mascarade a fait fuir lentement par sa froideur maussade. Alors j'ai rempli ma panse avec de vives urgences, autant vives que ivres sur la piste de danse. J'ai ajusté mes pansements pour que mes saignements soient beaucoup moins apparents sur la piste d'argent. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite, défaite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Tu sais, ce soir j'ai lu dans mon corps relâché le manuel torturé de cette danse exaltée. J'ai même glissé ma langue dans des bouches saliveuses, dans de tout petits angles où l'on voit que les muqueuses. Puis là, je suis rentré bel et bien les mains nues, avec cet air déjà vu et l'envie de surplus. J'ai rien trouvé de précis, excepté d'apparence, exactement même si demain tout recommence.
France, c'est la fête de trop. Moi je l'ai faite, défaite, et ça jusqu'au fiasco, c'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite, défaite, et ça jusqu'au fiasco, c'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos.
Danse.
Radio Aviva vous invite à un concert de jazz sensationnel. Artfell en trio international, ce mardi 23 avril à 20h15 au Gazette Café en entrée libre. Vous les avez adorés sur scène pour les 40 ans de Radio Aviva. Retrouvez-les pour une soirée magique de standards jazz populaire, de Cole Porter à Irving Berlin, en passant par Bud Flanagan. Un répertoire palpitant sorti de l'Anglo-American Songbook sera célébré. Artfell au piano, David Cross à la trompette, Eric Gill à la guitare. Artfell Trio, mardi 23 avril à 20h15 au Gazette Café, 6 rue Leva, à Montpellier.
Somewhere else, far away. Well, you know what they mean, and they mean what they mean.
des antipos à Saturne. C'est à nous qu'elle a demain matin.
Ouais, c'est fini quand je mets du rose. J'adore quand tu me dis l'Iran et c'est toi le plus beau. Et des suites, je préfère celui qui me fait grimper au rideau. À n'importe quelle heure et dans n'importe quel studio. Tout le monde sait que tu connais toutes les œuvres, donc on t'aime trop. On sait tous avec toi, on passera des moments très chauds. À chaque fois que tu te sens seul, n'hésite pas, compose mon numéro. Et toi-même, tu sais que le voix de tout seul sera très chaud.
Angela Mubs, à bord du Hound. Contraint, je suis une contrainte. C'est par contre à morale qu'elle se retrouve contre un noir à lunettes. Isolo, homme de Zouk, homme de Soukous. Malhonnête Koussi. Oui, si j'ai pas elle, j'ai sa cousine. Elle est Koussi, Koussa la grossie, mais je mettrai un coup à ça.
Je vous propose un programme qui s'appelle Swing Doctors. Ce programme est dédié à la musique de swing, de jazz et de bonne humeur.
Retrouvez Arthur pour Swing Doctors le mardi et le dimanche à 11h.
Question de santé.
Question de santé.
Le rendez-vous santé de Radio Aviva.
Bonjour à toutes et à tous. Il va être question aujourd'hui des pathologies vasculaires avec un médecin vasculaire, avec le docteur Thomas Béard. Bonjour, docteur Béard.
Bonjour.
Alors, vous êtes médecin vasculaire, c'est une spécialité assez large. De façon globale déjà, est-ce que c'est une spécialité où on consulte de plus en plus ? On verra toutes les sous-parties de cette spécialisation, mais vous, en tant que médecin vasculaire, vous professez à la clinique Beausoleil à Montpellier, oui. Également à Roque Santé, près de la gare à Montpellier, à Nouveau Pôle et au pôle de santé de Gignac. Et donc, est-ce que vous constatez beaucoup de demandes, de plus en plus de demandes, comme dans d'autres pathologies ?
Oui, il y a de plus en plus de demandes, parce que les gens sont plus informés maintenant des problèmes médicaux, donc ils vont plus facilement consulter. Et l'autre fait qui nous amène plus de patients, c'est qu'on soit moins de médecins à s'occuper de ça.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, pour nos éditrices et nos auditeurs, on va essayer de voir comment le, sur quel type de vaisseau le médecin vasculaire agit. Artère, veine, puis...
Et puis vaisseau lymphatique et microcirculation aussi.
Voilà. Donc, au niveau, donc, on va essayer de voir les pathologies les plus fréquentes, artérielles et, ou veineuses, que vous avez à traiter. On parle souvent d'artériopathie, on pense un peu moins aux anévrismes.
Oui, alors sur les pathologies, si on regarde les pathologies artérielles, le plus gros pourrieur de pathologies artérielles, c'est l'athérome. En fait, ce sont des plaques qui vont se développer dans les artères, sous l'effet de différents facteurs comme le tabac, l'hypertension, le diabète, le cholestérol. Et ces plaques vont boucher les artères. Donc, au niveau du cœur, ça va donner l'infarctus du myocarde. Au niveau cérébral, ça peut donner des accidents vasculaires cérébraux ischémiques. Oui. Et au niveau des membres inférieurs, ça va donner l'artériopathie obliterante des membres inférieurs, qui va se traduire en fait uniquement par des douleurs. Généralement, les patients vont se présenter avec des douleurs à la marche, qui surviennent au bout d'un périmètre de marche qui est régulièrement le même et qui les oblige à l'arrêt.
Et c'est un périmètre de marche qui va en se réduisant, donc c'est un mauvais signal. Ce sont des pathologies là graves, pour lesquelles, bien sûr, il faut tout de suite consulter. Alors, on parlait des artères, quand on va parler des veines, on a les varices, on y pense tous, hein, c'est facile, mais d'autres pathologies ?
Oui, alors sur les pathologies veineuses, on va avoir deux grands groupes. On va avoir l'insuffisance veineuse chronique, qui est essentiellement médiée par les varices, mais pas que. Et on a aussi ce qu'on appelle la maladie thromboembolique veineuse. C'est les caillots, les thromboses qui vont se développer dans les veines avec deux grandes maladies, la phlébite et l'embolie pulmonaire.
Donc également grave selon l'endroit où ça survient. Hein, l'embolie pulmonaire, ça fait partie des actes sérieux, des urgences médicales absolues.
Oui.
Alors, ça, on était au niveau des artères, des veines. Vous évoquiez aussi les pathologies lymphatiques. De quoi parle-t-on dans ce cas-là ?
Donc, on parle surtout de lymphœdème. En fait, ça va être un œdème qui va se développer aux dépens du système lymphatique. Les vaisseaux lymphatiques, en fait, c'est des petits vaisseaux qui vont être parallèles au réseau veineux et qui vont drainer la lymphe.
Qui sont minuscules, qui sont très fins, hein, c'est ça ?
Voilà.
Et donc, ça donne les jambes lourdes, les jambes enflées.
Alors, ça va surtout donner un œdème. Un œdème du pied, de la jambe, de la cuisse, mais ça peut également toucher les membres supérieurs avec un gros pourvoyeur de lymphœdème qui est le cancer du sein et ses traitements.
Donc, on voit bien qu'on a là toute la gamme dans sur l'échelle de gravité et qu'il est important de s'occuper de ces signes cliniques. Ça n'est pas juste une petite gêne, il peut y avoir derrière un acte à poser médicalement.
Tout à fait.
Alors, sur la microcirculation, quand on parle de la microcirculation, de quelle pathologie parle-t-on ?
Alors, sur la microcirculation, on va parler des acrosyndromes. En fait, acrosyndromes, c'est syndromes qui vont toucher les extrémités.
Oui.
Et ces acrosyndromes, les acrosyndromes vasculaires sont souvent climatiques.
Oui.
Donc, avec un gros pourvoyeur qui est le froid et qui va donner l'acrosyndrome le plus connu, qui est le syndrome de Raynaud. Donc, les gens vont se présenter avec des crises vasospastiques au niveau des doigts qui vont devenir blancs, bleus et douloureux.
C'est ça. Alors, docteur Béard, il est important de consulter quand on a ce type de signe, de consulter rapidement. Est-ce qu'il y a des traitements possibles ?
Oui, il y a des traitements. Donc, ça va être tout ce qui va être mesure de protection contre le froid. Et après, il y a des médicaments vraiment actifs qui peuvent aider à lutter contre le spasme.
Oui.
Alors, c'est important de consulter quand on a ce genre de manifestation climatique. Parce que en fait, tous les acrosyndromes circulatoires vont avoir deux formes. Il y a une forme primaire qui correspond à une maladie qui est souvent bénigne, et une forme secondaire qui peut être symptôme d'une autre maladie. Et c'est ça qu'il va avoir à chercher, c'est de savoir si on a affaire à un acrosyndrome isolé ou si cet acrosyndrome s'intègre dans une maladie plus complexe.
D'accord, je comprends. Alors, on va revenir à... là, on voit bien que c'est tout à fait important de consulter d'ailleurs un spécialiste, parce qu'il y a des protocoles pour traiter ce genre de pathologie. On parle très souvent des varices. Alors, les varices, vous allez les classer dans quel type, au niveau de la microcirculation ?
Non, les varices, c'est plutôt veineux.
Oui. Et donc, sur les varices, on sait qu'on peut avoir des traitements, d'ailleurs, qui se font à Beau Soleil, je crois, justement, soit boucher les varices, les scléroser. Quelles sont les alternatives là, quand on a des varices importantes ?
Il y a trois grands groupes de traitements en fait, pour traiter les varices.
Oui.
En premier, il y a les traitements thermiques endovéneux, avec deux techniques qui sont complémentaires. Le laser endovéneux, donc c'est une destruction par la chaleur, et la radiofréquence, c'est une résistance chauffante qui va venir brûler la veine. Donc ça, c'est traitements thermiques endovéneux. Ensuite, on a la sclérothérapie, avec deux types de sclérothérapie qui sont un petit peu différentes. On va avoir la microsclérothérapie, qui s'occupe plutôt du côté esthétique des choses.
Ouais.
Et ensuite, on va avoir des scléroses de plus gros troncs veineux qu'on va faire avec une forme de sclérosant en mousse qui permet de traiter des veines plus importantes.
D'accord.
Là, qui est prise en charge par la Sécurité sociale.
D'accord.
Côté esthétique n'est pas du tout pris en charge. La sclérose médicale, oui.
D'accord. Est-ce que c'est pris entièrement ? Il y a des dépassements ou à la charge du patient ?
Donc nous, sur la clinique Beau Soleil et Pôle Santé, on ne pratique pas de dépassement d'honoraires, mais dans d'autres structures, il est possible d'avoir des dépassements.
D'accord, ok, très bien. Alors, votre conseil à nos auditeurs en une seconde, là.
Alors c'est important, quand on a des varices, de toute façon, d'aller consulter un médecin vasculaire pour faire ce qu'on appelle un échodoppler veineux.
Bien sûr.
Ça permet de faire une cartographie et de voir un petit peu la cause de cette insuffisance veineuse. Est-ce qu'on est sur des varices ? Est-ce qu'on est sur des séquelles de phlébite ? Voilà, ça permet un peu de classer le patient et de lui proposer une prise en charge qui est adaptée. Et après, en fonction de la nature des varices, on va plus s'orienter vers du thermique endovéneux, de la sclérothérapie, et parfois on amène quand même certains patients à la chirurgie.
Très bien, donc on voit qu'il y a quand même des actes qui peuvent être posés, avec aussi des traitements médicamenteux, voire chirurgicaux, que ça concerne, je suppose, docteur Thomas Béard, l'ensemble des pathologies vasculaires, où quand on a une anomalie, il faut consulter rapidement. Très bien, je vous remercie infiniment pour cet éclairage sur les pathologies vasculaires. Docteur Thomas Béard, je rappelle que vous êtes médecin à la clinique Beau Soleil et également vous consultez à Rock Santé, près de la gare, le nouveau pôle santé, et puis de Aesio, et également au pôle santé de Gignac. Merci infiniment.
Merci à vous.
C'était Question de santé.
Question de santé.
Le rendez-vous santé de Radio Aviva. Radio Aviva à Montpellier, Palavas et Saint-Mathieu-de-Trévier, 88 FM en DAB+ et partout dans le monde, radio-aviva.com.
This ain't Texas. Keys up. Take it to the floor now. Woo! There's a tornado in my city. In the basement. That ain't pretty. Rugged whiskey. We're surviving. A break of kisses. Sweet redemption. Passing time, yeah. Ooh. One step to the right. We headed to the dive bar. To the left, then spin me in the middle, boy. I can't. to the floor.
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't give, come take it to the floor now.
Qu'à ça tous les jours, moi qui ne Est-ce que tu m'aimes toujours pour toujours?
Rêver à des femmes. On m'a trop donné bien avant j'aime les gens, pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours et toucher la misère, pour respecter l'argent, pour que j'aime être sain, vaincre la maladie, qu'on me donne la nuit, pour que j'aime le jour, on me donne le jour, pour que j'aime la nuit, pour que j'aime aujourd'hui, oublier les toujours.
I'm falling. you bet that ass too. Go from Malibu to Paribu. Yeah, I can have the big machine bad to you. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass too. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's almost unbearable. In a 100 years, not there would I pull up on side, let you pay me back. Nothing like your leg guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like that. So I'm jail-watch, and wait for you to salute and chew, dip pimp. Not many women can refute, dip pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused, dip pimp.